rap.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de commencer la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, 2 heures de médias et de culture au sens large, tous les médias, toutes les formes de culture, avec une pépite au cinéma aujourd'hui, le retour de la nuit de la déprime, mais absolument pas déprimant, le portrait inattendu d'Hélène Manarino. Nous sommes ensemble pour 2 heures, en direct évidemment, et vous pouvez évidemment podcaster toute ou partie de l'émission, ou la moitié qui vous manque, sur europe1.fr. Notre info média, dans quelques instants, pour la 4e année consécutive, l'association humanitaire CARE recense les 10 crises humanitaires oubliées par les médias en 2019. Pourquoi en parle-t-on ? Car moins ces crises sont médiatisées, plus elles durent. Nous serons avec son directeur général, Philippe Lévesque. TF1, qui lance aujourd'hui une nouvelle série médicale H24 avec la comédienne Anne Parillo qui sera avec nous. Ça raconte le quotidien de 4 infirmières. Il y en a une dont le mari est dans le coma, c'est Anne Parillo. Une autre qui déprime, une autre qui se shoot à la morphine et la 4e qui arrondit ses fins de mois en faisant la call girl. La vie quoi, le producteur sera là lui aussi. L'humoriste Max Boublil enfin pour son nouveau one man show. Rien que le titre c'est incompréhensible, il s'appelle Nouveau Spectacle et c'est son nouveau spectacle. Je me demande comment il va faire quand il y aura le prochain spectacle, c'est-à-dire le précédent s'appelait Nouveau Spectacle, mais celui-ci, c'est lequel ? Il va nous expliquer, c'est vraiment du Max Boublil. On est ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Et l'émission qui démarre par le journal des médias. Bonjour Benjamin Delsol.
Bonjour.
Un petit nouveau dans l'équipe, bienvenue à vous. Qu'est-ce que vous avez au menu ce matin dans votre journal des médias, Benjamin ?
BFM TV qui continue de développer son réseau en région, une chaîne web qui part en live, une soirée de gala et le retour de DSK.
Mais d'abord, on va commencer, c'est la tradition ici, vous le savez, par les audiences de ce week-end et d'hier. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télévision ?
Et c'est TF1 hier soir qui arrive en tête avec Un plan parfait, le film avec Danny Boone qui a été suivi par 4 590 000 téléspectateurs, soit une part d'audience de 21,6%. Suivi par le film cinéma aussi de France 2, c'était Mad Max Fury Road qui a été suivi par 2 450 000 téléspectateurs et 11,3% de part d'audience. Et enfin, à la troisième place, c'est le magazine Zone Interdite. Ophélie Meunier consacrait son émission au maire de France, aussi bien à la ville qu'à la campagne. L'émission a été suivie par 2 043 000 téléspectateurs et 9,6% de part d'audience.
Et vous aviez un chiffre pour vendredi ?
Oui, à noter, c'était vendredi, c'est le bon score de Star à nu, l'émission produite par Arthur. Le talk show de TF1 avec des messieurs connus qui se sont déshabillés en public est arrivé en tête des audiences en réunissant 3 654 000 téléspectateurs, soit 17,2% du public.
C'était pas un talk show, c'était un show avec striptease intégral devant 1000 personnes au Lido et tous ces gars-là qui sont le kiki à l'air. À noter que la semaine prochaine, c'est-à-dire vendredi prochain, ce sera les femmes qui vont se déshabiller. Arthur, qui était notre invité vendredi, on lui a porté chance. Ça, c'était pour les audiences du week-end. Et on commence votre journal par une naissance.
Et oui, ça y est, elles sont arrivées. Ce sont des jumelles. Le faire-part est envoyé par BFM TV pour annoncer après Paris et Lyon le lancement de ces deux nouvelles chaînes d'infos locales, BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Or, ces deux chaînes qui existaient déjà dans la région, elles s'appelaient Grand Lille TV et Grand Littoral TV, mais avec l'entrée dans leur capitale du groupe Altis, qui détient donc BFM TV, les deux chaînes changent de nom, mais pas seulement. Qu'est-ce qui va changer ? Nous avons demandé à Philippe Antoine, c'est le directeur de rédaction de BFM Région, de nous l'expliquer et il y répond à notre question au micro d'Alexandre Omar.
Naturellement, Grand Lille TV et Grand Littoral TV vont se transformer en BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, où on fera évidemment de l'actu en priorité, mais avec des moyens plus développés et renforcés. Visuellement, la chaîne ne ressemblera absolument pas à ce qu'il y était avant. Elle va changer de couleur, elle va changer d'habillage, il y aura un scroll, un dendron déroulant qui sera actualisé tout le temps.
Donc plus de moyens, vous l'avez entendu, une vingtaine de journalistes va traiter l'actu en continu. À qui et à quoi ces deux nouvelles déclinaisons de BFM vont donner la priorité ? Philippe Antoine nous répond.
Notre promesse, c'est que en regardant BFM Grand Lille et Grand Littoral, c'est de savoir ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer dans ma région, l'information économique, l'information politique, les élections municipales dans quelques semaines. Voilà, on va être très présent avec une émission tous les jeudis soirs, 18h30, 19h, avec aussi des débats, des émissions culturelles, du sport. Il y a une région là aussi, il y a une actualité foisonnante en sport, le foot, le LOSC, Lens qui va sans doute remonter, j'espère, Valenciennes, le Brexit qui vient de commencer. Donc toute cette actualité-là, on la délivrera, mais pas seulement, parce qu'on se doit aussi d'être proche de nos téléspectateurs en donnant une information de vie quotidienne, d'accompagnement de nos téléspectateurs.
Voilà, des téléspectateurs qui pourront donc suivre une matinale, 6h30 ou 9h30, un rendez-vous du soir pour savoir ce qui se passe dans la région, et évidemment le traditionnel aussi, connaître la météo, les conditions de circulation, le trafic des transports en commun. Tout ça commence ce soir à partir de 19h sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.
Et puis un lancement peut en cacher un autre.
C'est vrai que c'est aussi aujourd'hui qu'est lancé un tout nouveau projet imaginé par Webedia. Alors Webedia, c'est le premier groupe média sur le divertissement en ligne. C'est un repère de stars du net, en gros. Le nom de cette chaîne, c'est le live.
Ça va, bien installé ?
Oui.
Allez, on y retourne. Bienvenue dans 301 vues, ma petite émission. J'invite des créateurs du net en tout genre pour parler de sujets spécialement gênants. Voilà, c'est quand même notre spécialité.
Et le live est présenté comme le premier média générationnel en direct et interactif. Bref, en gros, c'est une chaîne en continu, presque comme à la télé, qui est destinée aux moins de 35 ans, ce qui est important, avec chaque jour entre 17h et minuit, des talk shows, des magazines présentés par des stars.
Ah oui, des stars qui ?
Des humoristes, des youtubeurs à forte communauté, comme on dit sur les réseaux sociaux. Norman, Squeezie, Baté Gaël, Cyprien, Hugo Travers, qui ont tous des millions de followers.
Ah oui, là je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas Internet. C'est les gros noms des youtubeurs. Vraiment, c'est vraiment des stars. On n'est pas en train d'ironiser du tout. Il y a du lourd.
Ouais, exactement. Il y aura aussi des personnalités de la télé. Il y a le docteur Michel Simès, Thomas Touroud ou Kevin Razi, qui anime encore récemment le show Rendez-vous avec vous sur Canal+. Et là vous vous dites...
Ah oui, tiens,
bonne question. Elles sont aussi un peu moins nombreuses, ceci dit. L'humoriste Laura Fulpin, la comédienne Audrey Pirot, l'ancienne Miss France Marine L'Orphelin ou encore Agathe Auproux. Agathe Auproux qui d'ailleurs a quitté l'émission TPMP de Cyril Hanouna il y a quelques semaines à peine et qui co-animera un talk show quotidien pendant 2 heures.
Et alors où est-ce qu'on peut voir cette chaîne ?
Alors c'est bien simple, partout. Le live, voilà. C'est en direct et en replay sur YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Dailymotion, mais aussi sur un site et une application dédiée. Et ça commence donc ce soir à partir de 18h.
Et le magazine Gala, lui aussi, fait son live.
Oui, Gala se diversifie. Le magazine des stars sur papier glacé organise ce soir une grande soirée Gala Live dans un théâtre parisien. Le principe, 13 personnalités seules sur scène face à un public de 500 personnes vont à tour de rôle se confier sur un moment marquant de leur vie. Alors comment ça va se passer ? On a demandé à Mathias Gürtler, c'est le rédacteur en chef de Gala, de nous raconter.
Des personnalités que l'on connaît pour certains, qu'on a découvert pour d'autres, mais à qui on a proposé finalement de se raconter différemment. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est tout l'enjeu quand on est une célébrité et que les réseaux sociaux sont partout, tout l'enjeu de se raconter et de trouver des espaces pour se raconter en toute authenticité. Et l'espace qu'on leur offre ce soir sur la scène du théâtre de la Tour Eiffel est précisément un espace d'authenticité, puisque ce qui va se dire sur scène restera sur scène. Il n'y aura pas de téléphone portable branché dans la salle, des petites pochettes seront distribuées au public pour qu'ils éteignent en fait et qu'ils laissent à l'intérieur leur téléphone. Et ainsi, la parole sera complètement libre et libérée.
Voilà, et après une première édition en octobre dernier, le Gala Live revient avec un casting de choix. Ce soir, Elise Moon, le rappeur Kerry James, Clotilde Courau, Marc-Olivier Fogiel, le chef Marc Vera, Bilal Hassani ou encore le candidat à la mairie de Paris, Cédric Villani.
Oui, la plupart sont quand même des habitués de la scène. Hein.
Oui, ils sont habitués à monter sur scène ou à parler en public, mais là, l'exercice n'est pas forcément simple. En croire Mathias Gürtler, qui a passé du temps avec ses personnalités pour préparer la soirée.
Même les plus habitués sont toujours un peu décontenancés quand ils se retrouvent sur la scène du Gala Live. Il y a beaucoup, notamment d'humoristes ou de gens aguerris aux médias et à la parole en public qui seront sur scène ce soir. Et pour autant, quand ils sont sur scène pour parler de leur enfance, de leur parcours d'homme, de leur parcours de femme, bah, tout le monde redevient finalement le garçon ou la fille qu'ils sont dans la vraie vie, en fait. Et c'est un peu toute ça l'ambition du Gala Live, c'est de faire tomber les masques et de faire parler la personne au-delà du personnage, en fait. Et c'est pour ça que même les plus aguerris, même les plus rodés à l'exercice du stand-up, on le traque, beaucoup le traque même.
Pour voir en vrai des personnalités qui ont le trac, mais surtout découvrir ce qu'elles ont à raconter, ça se passe donc ce soir à 20h au Théâtre de la Tour Eiffel à Paris. Et reste à parier que s'il s'y dévoile des choses que l'on ne savait pas déjà, forcément que Gala en parlera.
Et puis pour finir, revoilà DSK.
Dominique Strauss-Kahn, à qui Netflix a décidé de consacrer un documentaire. C'est une information révélée ce week-end par la lettre A. On y apprend que la plateforme de streaming américaine vient de commander à l'agence Kappa un film sur DSK. C'est le réalisateur et comédien Jalil Lespère qui s'est vu confier le projet. Netflix a confirmé l'information sans en dire beaucoup plus. On sait en revanche que l'ancien patron du FMI n'a pas encore donné son accord pour être interviewé dans le documentaire. Mais quoi qu'il en soit, que DSK parle ou pas, le film devrait trouver sa place sur la plateforme d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, aux côtés d'autres documentaires développés en France, entre Maître Gims et Grégory. Une galerie de portraits divers et variés.
Oui, et puis vous voulez dire quelque chose encore ?
Oui, avant de vous laisser, une information que je ne pouvais pas vous cacher plus longtemps.
Ah !
Oui Philippe, c'est la bonne nouvelle de ce lundi matin. Les feux de l'amour vont continuer de brûler.
Mais oui.
The Young and the Restless, le soap opéra américain qui est diffusé chaque matin sur TF1, vient d'être renouvelé pour 4 saisons supplémentaires par la chaîne CBS qu'il a lancée en mars 1973.
Oh, c'est une longue histoire.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Eh bien, je veux dire que c'est une longue histoire. La série va passer le cap des 50 ans de diffusion.
Dingue, mais les premiers, ils sont décédés. Les premiers comédiens, ils sont plus là.
Je vous confirme.
Merci Benjamin Del Sol. À demain.
À demain.
Il y a toujours Victor Newman.
C'est Linda Costa qui suit.
À suivre l'infomédia du jour avec ces crises humanitaires dont les médias ne parlent pas. C'est ce que nous dit le rapport de l'ONG Care France, Suffering in Silence, un baromètre qui recense les 10 crises humanitaires oubliées par les médias. Et on en parle avec le directeur de Care France, Philippe Lévesque, dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est alors Philippe de l'info média du jour.
En 2019, la photo d'un œuf a reçu près de 54 millions de likes, devenant ainsi la photo la plus populaire d'Instagram. Dans le même temps, 51 millions de personnes dans le monde ont souffert, loin des projecteurs, victimes de crises humanitaires oubliées. C'est-à-dire, 51 est inférieur à 54. C'est avec ces mots que l'association humanitaire CARE présente son rapport Suffering in Silence, en français souffrant en silence. Et pour la quatrième année consécutive, CARE recense les 10 crises humanitaires oubliées par les médias en 2019. Et moins elles sont médiatisées, plus ces crises durent. Alors ce matin, nous avons décidé d'en parler avec Philippe Lévesque. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'ONG CARE France. D'abord, Philippe Lévesque, comment avez-vous fait pour établir ce classement?
C'est un travail entre membres de l'association CARE en Europe. Nous sommes mis ensemble. Nous demandons à un cabinet extérieur qui s'appelle Meltwater, une entreprise allemande, de mesurer les occurrences sur le net en 5 langues, français, anglais, allemand, espagnol, arabe, les occurrences de mots crise et des noms des 20 plus grandes crises ou des 40 plus grandes crises qui ont touché plus de 1 million de personnes. Ils tournent leur machine, font leur intelligence artificielle et sortent ce classement qui nous montre les crises les moins médiatisées, les crises sur lesquelles vous, les médias, vous avez porté le moins de regard pendant l'année 2019.
Je vais vous l'avouer, il y a même des crises dont j'ignorais l'existence et pourtant Dieu sait que je lis les journaux, que je regarde la télé et que j'écoute la radio. D'abord, ce qui résulte de ce classement, c'est que la grande oubliée des micros et des caméras, 9 fois sur 10, c'est l'Afrique qui passe à la trappe.
C'est juste, c'est juste. Cette année, 9 des 10 pays qui sont les plus en crise, oubliés, sont dans ce triste palmarès. Alors, il y a différentes raisons à ça.
D'abord, est-ce qu'on peut les donner? Est-ce qu'on peut donner les crises? Vous les avez en tête ou pas?
Oui, je les ai en tête.
Alors, allez-y.
Celle qui a eu le moins d'occurrences, c'est Madagascar. Ouais. Dans Madagascar, dans le sud malgache, il y a chaque année des sécheresses. Ça fait très longtemps que cet épisode dure. Elles peuvent être dues... C'est une zone quasi désertique, donc il peut y avoir des problèmes de pluie. Mais il y a surtout les impacts des dérèglements climatiques dans la zone et des phénomènes El Niño, vous savez, les courants qui changent, etc. L'impact sur les populations.
Et donc, ce que vous avez dit en préambule, c'est que cette crise dont on parle pas ici et dont j'avoue, j'ai appris l'existence, touche déjà au minimum 1 million de personnes.
Cette crise à Madagascar touche plus de 2 500 000 personnes. 2 500 000 personnes. Et dans ce travail que nous avons fait, donc 5 langues, 2,4 millions d'articles qui ont été scannés à travers la planète pendant un an, la crise, les mots Madagascar et sécheresse n'ont que 610 occurrences. 610 occurrences. La crise la plus médiatisée, la plus suivie par vous les médias, c'est la crise de Syrie, 400 000 occurrences dans l'année. Et savez-vous combien il y a eu d'occurrences pour le Paris Saint-Germain? Le mot Paris Saint-Germain?
Ben allez-y.
2 700 000. 2 700 000. Alors, c'est ça que nous voulons mettre en parallèle.
Bien sûr. Rendre intéressant ce qui est important. Les autres crises alors, oubliées. Madagascar, on l'a dit, il y a la Zambie, l'Érythrée, le Kenya. Allez-y, je vous laisse détailler, Philippe.
L'Érythrée, le Kenya, l'Éthiopie sont liés cette année, en tout cas, à des problèmes de sécheresse dans la zone. Mmh. Et là aussi, on voit l'impact des dérèglements climatiques sur ces zones. Alors bien sûr, tout le monde connaît le Kenya, tout le monde connaît la Zambie, etc. Mais il y a des zones où il y a des zones de sécheresse où les médias ne vont pas ou ne vont plus.
Ouais.
D'où ce sous-traitement de l'information.
Est-ce que ce sont les médias qui ne vont plus là-bas ou est-ce que parfois c'est le gouvernement qui souhaite que les journalistes n'aillent pas mettre leur nez là et qui préfèrent, par exemple, quand on veut tourner le Kenya, nous montrer les réserves avec les éléphants, les tigres et les girafes. Les lions et les girafes. Les tigres, c'est un autre continent.
Les tigres peut-être pas.
Non, les tigres, ils sont en Asie.
Mais vous avez raison. Il y a quantité de raisons à cet oubli dans les médias. Les problèmes politiques peuvent être une des raisons. À l'occurrence, c'est vrai pour l'Érythrée ou la Corée du Nord, où ni vous, les médias, ni nous, les humanitaires, pouvons rentrer facilement. Ce n'est pas vrai pour la Zambie, ce n'est pas vrai pour le Kenya.
Pauvreté extrême au Burundi.
Le Burundi est en une zone, il y a de l'insécurité alimentaire au Burundi depuis longtemps, puis il y a des troubles politiques. Alors quand on rajoute des problèmes de démographie parfois aussi, hein, trop de pression humaine sur une zone, des problèmes d'impact des règlements climatiques et des problèmes sociopolitiques, alors là vous avez les ingrédients pour une crise qui va durer longtemps, c'est le cas du Burundi.
Vous parlez aussi de la crise environnementale et des violences sexuelles en Éthiopie. J'ignorais qu'il y ait une catastrophe qui inclut des violences sexuelles, ouais, que les médias occidentaux passent sous silence, alors que théoriquement, on devrait être sensible à ce genre de choses.
On devrait, et c'est une bonne chose d'être sensible à ces problèmes, chez nous évidemment, mais un regard extérieur serait utile pour nous permettre de protéger mieux les victimes. Lorsqu'il y a beaucoup d'insécurité alimentaire ou d'insécurité politique, les gens doivent se déplacer. Souvent, les femmes se retrouvent seules, chefs de famille. Le mari est peut-être en prison, ou il était battu, ou il est mort, ou il est parti.
Ou il fait la guerre,
ou il a migré ailleurs pour des raisons économiques. Et la femme chef de famille se retrouve avec les enfants en ville. Là, elle a très peu de ressources. Et elle peut être assez souvent la victime de violences sexuelles ou de devoir avoir recours à la prostitution pour survivre.
Quel est le point commun de ces 10 crises, mis à part qu'on n'en parle pas dans les médias? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sous-tend ça?
Une crise dont on ne parle pas dans les médias est une crise qui sera moins financée, qui sera moins sur le radar des humanitaires aussi, bien sûr, et moins sur le radar des politiques. Alors elle va durer plus longtemps. Je crois que le point commun qu'on peut trouver, c'est ça. Ces crises durent plus longtemps parce qu'elles seront moins suivies. Elles ont moins d'impact géopolitique aussi. Donc les leaders mondiaux laissent faire.
Mais ce qui les unit, dites-vous, c'est que c'est le réchauffement climatique et les impacts dans presque tous les cas.
Pour 7 d'entre elles, les impacts et dérèglements climatiques, oui, les relient. Alors bien sûr, on en parle de plus en plus des dérèglements climatiques, leurs conséquences, et c'est une bonne chose. Mais la conversation est essentiellement tournée sur nous, sur l'Occident, notre changement de vie, les conséquences sur notre économie, les conséquences chez nous, et elles sont là évidemment. Mais il y a de moins en moins, où il n'y a pas assez de regards qui sont portés sur les conséquences des dérèglements climatiques pour les gens qui en souffrent énormément déjà aujourd'hui, particulièrement en Madagascar, le Sahel.
Les choses bougent, mais pas assez. Vous allez nous dire pourquoi et comment, et qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça, nous tous, les citoyens. Parce que si on lit les articles, ça fait monter les occurrences.
Pour la 4e année consécutive, l'association humanitaire CARE a publié son rapport qui recense les 10 crises humanitaires oubliées par les médias. On continue à en parler avec notre invité, le directeur de CARE France, Philippe Lévesque, dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Suffering in Silence, c'est le nom du rapport publié par l'ONG CARE France. Il révèle les 10 crises humanitaires oubliées par les médias. Avec ce constat, une crise dont les médias ne parlent pas va durer plus longtemps. Et les pays, les institutions, les acteurs privés et même les ONG lui apporteront moins d'aide. On continue à en parler avec Philippe Lévesque, notre invité, le directeur général de l'ONG CARE France. Philippe.
Pardon de cette critique et ne le prenez pas mal, mais les choses ne bougent pas énormément. Sur 6 des 10 crises que vous mettez en avant, deux au moins ont déjà figuré dans le classement annuel. Est-ce que ce n'est pas un peu décourageant?
Alors bien sûr, on peut voir le verre à moitié plein, c'est peut-être un petit peu décourageant, mais on va le regarder de l'autre côté aussi.
Vous dites qu'il y en a 8 qui n'y figurent plus.
Voilà, donc, et l'important c'est de faire ce chemin ensemble avec vous, les médias, parce que c'est un rapport sur vous.
Bien sûr.
Et c'est un rapport pour vous challenger, vous, et challenger vos conférences de rédaction sur l'intérêt qui est porté. Tout à l'heure, je disais le score du Paris Saint-Germain, 2,7 millions. Et Madagascar, 612. La République centrafricaine, des dizaines de milliers de morts, c'est un peu moins de 1000 occurrences. Le concours de l'Eurovision pendant le mois de mai 2019, 100 000 occurrences. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler.
Bien sûr.
Mais un regard des médias un petit peu plus fort sur les crises oubliées des médias nous aiderait à travailler.
Mais vous savez qu'en même temps, les médias, je ne vais pas les disculper ici, mais les médias regardent ce qui est suivi. Et si on découvre qu'il y a des occurrences, par exemple sur Twitter, et qu'un hashtag est suivi, les médias font des papiers sur le sujet. Le coronavirus, tous les médias se sont rendus compte, il y avait des envoyés spéciaux partout. Toutes les chaînes d'infos étaient depuis 7 heures à Caril Rouet pour voir ce qui allait se passer, parce qu'ils avaient vu qu'il y avait une appétence du public français pour suivre cette crise.
Ouais, à juste titre. Maintenant, on n'est pas obligé de suivre un œuf sur Instagram non plus.
On est bien d'accord. Mais là, c'était une boutade.
Donc, il y a des choses.
Non, mais les
faire.
Gens. Non, il faut expliquer. L'œuf, c'était humoristique. Voilà. On a mis un œuf pour mettre le truc le plus insignifiant qui soit pour démontrer l'absurdité du système.
Absolument. Ouais. Mon point, c'est que ce sont des choix que font vos conférences de rédaction. Donc, faire monter les sujets, c'est un choix de patron, ce choix de direction. Et je pense qu'un peu plus d'éclairage aiderait. Il y a d'autres pistes. Comme par exemple des liens entre vous, les rédactions parisiennes ou allemandes ou britanniques, avec le terrain. Il y a beaucoup de journalistes sur le terrain, mais qui ont du mal à faire remonter les informations.
Comment vous l'expliquez ?
parce qu'ils ont très peu de moyens, parce qu'ils sont très peu financés. On pourrait imaginer des relations entre de grands médias comme Europe ou France Télévisions ou ailleurs en Allemagne ou en Grande-Bretagne avec des journalistes de terrain pour faire de l'écho. Nous, nous utilisons beaucoup les radios locales, par exemple, en Afrique ou à Madagascar. C'est un excellent véhicule pour prévenir la population de l'approche d'un cyclone ou qu'il y a des déplacements ou sur le coronavirus, par exemple. Donc ces partenariats locaux, c'est important. On a aussi constaté qu'il y a eu, spécialement dans les médias français et allemands, des baisses dans le nombre, dans les budgets pour voyager, pour aller sur le terrain, ou dans le nombre de correspondants locaux.
Ouais.
Alors tout ça a un impact,
bien sûr,
ce qui revient.
Même à la télévision en France, il y a des bureaux qui ont été fermés. Ouais. J'ai le souvenir que France 2 ou TF1 avaient des bureaux en Amérique du Sud et que c'est plus le cas désormais. Donc on réfléchit à deux fois avant d'envoyer quelqu'un.
C'est très juste.
Voilà.
Une autre piste, par exemple, c'est de demander aux bailleurs de fonds, aux grands bailleurs institutionnels, de garder une petite part de budget pour que nous, humanitaires, nous puissions amener avec CARE ou avec d'autres des journalistes sur le terrain pour témoigner.
Vous avez étudié la présence de ces crises humanitaires dans les médias, on l'a dit en français, mais également en anglais, en allemand, et depuis cette année en espagnol et en arabe. Est-ce qu'il y a des variations sensibles selon les pays, selon les langues ?
Globalement, assez peu. Vu le nombre d'articles, les 2,4 millions qui sont analysés, tout ceci se compense. Alors bien sûr, il peut y avoir certains prismes. Les médias, on parlait de la crise de Madagascar, le pays qui l'a plus suivi, c'est l'Afrique du Sud, donc en anglais, mais c'est le pays d'à côté.
Ouais.
Bien sûr, mais globalement, tout ça se compense.
Mais par exemple, les articles en arabe ne suivent pas davantage l'Afrique, alors que les pays du Maghreb sont situés géographiquement plus proches de l'Afrique que la Scandinavie, par exemple.
Bien sûr, on n'a pas suivi les langues scandinaves, mais ça viendra peut-être. On va rajouter, si on peut, parce que ça coûte cher. Le russe et le chinois, et on verra s'il y a d'autres impacts, et le portugais. Mais non, les médias arabes suivent plutôt les crises du Moyen-Orient, et il y a de quoi faire.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce qu'on appelle la loi de proximité, qu'on appelle dans les rédactions la loi du mort au kilomètre ? C'est-à-dire qu'on est très, très sensible à ce qui se passe quand on a une relation parfois même humaine. Par exemple, l'appétence de la France, des Français, pour ce qui se passe en Algérie, vu que l'Algérie était française jusqu'au 5 juillet 62, par exemple.
Oui, on voit une proximité linguistique ou culturelle. C'est sûr que dans les médias français, il y aura un regard un peu plus fort sur le Sahel que dans des médias allemands. C'est clair, les médias de langue anglaise vont regarder un peu mieux ce qui se passe en Inde, au Pakistan. C'est sûr, mais néanmoins, statistiquement et globalement, tout ceci s'équilibre et pointe vers les mêmes crises oubliées partout.
Est-ce que pour vous, un reportage est une aide pour résoudre un conflit comme peut l'être l'aide humanitaire ? Est-ce que vous-même, du coup, vous êtes amené à embarquer avec vous des journalistes, des équipes de télé, de radio ?
C'est une très bonne question. Et oui, cela arrive. Oui, mais nous n'avons pas beaucoup de fonds, nous non plus, là-dessus. C'est pour ça que j'insiste sur les bailleurs, comme l'Union européenne ou le gouvernement français ou américain, pour financer un billet d'avion ou deux billets d'avion. Je peux difficilement utiliser l'argent des donateurs pour cela. Même si je pense en effet que la médiatisation contribue à la résolution, en partie en tout cas, de l'aide, de la crise, puisque cela permet de faire pression sur le gouvernement local ou en tout cas nous donne des arguments vis-à-vis du Quai d'Orsay ou vis-à-vis du ministère des Affaires étrangères britannique.
Puisqu'on parle d'argent, comment vivez-vous ? Je veux dire, comment vous financez-vous ? Ce sont des dons, ce sont des dotations étatiques. Comment vous vivez ?
Très peu. Alors, on vit difficilement, comme tout le monde. Mais dans les ressources de CARE France, notre budget de 40 millions d'euros, les fonds privés représentent le tiers de ces ressources. Les deux autres tiers, ce sont des financements, toujours sur projet, de l'Union européenne, qui est le plus grand bailleur de fonds pour l'aide international aujourd'hui.
Mais alors justement, je vais peut-être dire une énormité, est-ce que vous n'auriez pas intérêt à investir, entre guillemets, tant est qu'on puisse investir dans des sujets aussi difficiles que l'humanitaire et la misère humaine, d'emmener des équipes de télévision qui font des reportages, qui sensibilisent les gens en Occident et qui eux-mêmes font des dons ?
Nous le faisons quand nous en avons les moyens. Donc j'essaie d'amener des journalistes parfois sur le terrain, peut-être deux fois par an. Ça coûte quand même...
Non, mais prendre ces moyens pour ça, comme un investissement.
Le retour n'est pas si immédiat que ça.
C'était le sens de ma question.
Donc ce n'est pas parce qu'un journaliste sera allé sur le terrain qu'il y aura des dons qui vont affluer aujourd'hui. Ça ne marche pas exactement comme ça, bien sûr. Mais néanmoins, ça fait partie du travail. Et pour moi, c'est extrêmement important d'amener des médias, mais d'amener aussi des politiques, des députés, des sénateurs, pour qu'ils voient ce qui se passe.
Quel rapport vous entretenez avec les politiques de tous les pays, enfin ceux avec qui vous êtes en contact, et en l'occurrence avec les gens de l'Union européenne ?
Ah, l'Union européenne, excellente, bien sûr. L'Union européenne a des budgets extrêmement importants.
Mais sur cette question-là,
sur cette question des crises
oubliées, est-ce qu'ils se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose, ou est-ce que là également, pardon de vous dire ça, vous prêchez un peu dans le désert ?
Dans tous ces pays-là, il y a des budgets de l'Union européenne pour répondre, sauf qu'ils sont insuffisants par rapport aux besoins des populations. Donc la médiatisation nous permettra de demander davantage. Ils seront comme vous, davantage sensibles à ces crises-là. La difficulté de l'Union européenne, c'est que c'est compliqué à approcher, et là, c'est terriblement bureaucratique.
Oui.
Donc si on simplifie un petit peu les règlements de l'Union européenne, on aurait peut-être plus de fonds pour aller sur le terrain.
C'est quoi votre défi alors? C'est de montrer qu'une crise qui touche l'Afrique, puisqu'on l'a dit, 9 sur 10 touche l'Afrique, et qu'elle va, par capillarité, nous atteindre un jour en Europe?
Elle nous atteindra peut-être pas. Elle atteint déjà beaucoup de personnes. Vous avez rappelé le chiffre, 51 millions de personnes uniquement sur ces crises-là. Il y en a évidemment près d'un milliard dans le monde en général. Mais 51 millions, c'est énorme. Moins que de gens qui ont regardé l'œuf dont vous parliez en introduction. Ouais. Mais néanmoins, moi, mon vrai défi, vous savez, c'est de plus en plus l'accès. Et c'est aussi une des causes de la non-médiatisation. C'est pouvoir avoir accès à ces personnes. D'autant que parfois, nous recevons, dans nos pays en tout cas, chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous allez recevoir, les télés vont recevoir des images, des témoignages que les gens ont pris sur leur téléphone. Mmh. Mais là, on parle de zones extrêmement oubliées où il n'y a pas de réseaux sociaux, où il n'y a pas d'Internet, encore moins d'électricité.
Et où parfois, le gouvernement ne veut surtout pas que les médias aient accès aux populations, en l'occurrence la Corée du Nord, qui débarque dans votre liste.
Alors c'est sûr qu'en Corée du Nord ou en Érythrée, nous n'aurons pas accès aux populations, c'est très clair.
En Érythrée, ça peut changer? Il y a un espoir ou pas? En Corée du Nord, on a l'impression que c'est verrouillé pour des années et des années. Peut-être que je me trompe et j'espère me tromper.
Je ne connais pas la situation de l'Érythrée, mais je n'ai pas l'impression que ça va changer.
Bon,
longtemps.
Vous me parlez tout à l'heure de verre à moitié vide, verre à moitié plein. Vous êtes optimiste pour 2021?
Moi, je suis toujours optimiste, sinon je ne ferais pas ce métier.
Bon, alors vous savez quoi? Je vais être optimiste, on vous invite dans un an. Vous serez là en février 2021. Merci beaucoup,
merci
Philippe Lévesque, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'ONG Care France. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe.
Merci.
À suivre dans Culture Média, la nouvelle série médicale de TF1, H24. Pour en parler, on reçoit la comédienne Anne Parillo et Thierry Sorel, le directeur de la fiction de Fédération Entertainment, qui adapte la série en France. C'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Anne Parillo et Thierry Sorel.
Bonjour Anne Parillo.
Bonjour.
Vous êtes comédienne de cette voix, bonjour. Vous serez pour toujours Nikita dans le film de Luc Besson qui vous a valu le César de la meilleure actrice en 91. Bonjour Thierry Sorel.
Bonjour.
Vous êtes producteur au sein de Fédération Entertainment, c'est une société française.
Une société indépendante française de production.
Vous lancez ce soir une adaptation d'une série finlandaise à succès, évidemment à succès, sinon ça n'aurait pas le coup de la lancer, ça s'appelle Nurse. C'est quoi le titre finlandais original? Vous le connaissez?
Qu'est-ce que?
Bon, vous ne connaissez pas. C'est rebaptisé ici, chez nous, H24. C'est ce soir à 21h sur TF1. Ça se passe dans un service des urgences d'un hôpital. C'est quoi le pitch, l'idée générale, Thierry?
Alors, H24, c'est une série médicale qui a pour particularité de mettre en avant des infirmières. On a l'habitude de voir des séries médicales avec des docteurs, Dr House, des internes, comme Grey's Anatomy. Mais là, nos personnages principales sont quatre femmes, quatre infirmières.
Anne Parillo, qui est votre personnage, Gabrielle?
Alors, c'est la chef cadre des infirmières. Donc, elle supervise un peu comme ça tout son cheptel d'infirmières. Et voilà, elle est en charge de gérer quand un patient arrive, dans quel bloc on le dirige. Elle gère un peu, elle est la coordination entre médecins, chirurgiens, infirmières, intendance en fait.
Mais alors, elle est très pro, dans le boulot, elle est très directive, mais dans sa vie intime, elle est très fragile. C'est ça qui vous a intéressé dans le personnage?
Moi, j'aime toujours les personnages polymorphes et j'aime effectivement toujours cette dose de fragilité dans la force. Et effectivement, sous ces couverts de personnages avec une ascendance et une autorité, c'est finalement quelqu'un de fragile, comme vous l'avez dit, de sensible, avec un humour aussi. Et assez dans les excès.
Bah tiens, l'humour, on va l'entendre. On a choisi un extrait dans ce passage. Vous êtes comme toutes les infirmières, vous êtes sur les fronts, vous occupez des patients, vous répondez au téléphone, c'est les urgences. Et en même temps, vous formez une jeune infirmière qui déboule, qui ne sait pas encore comment il faut faire sa manucure.
Urgence chirurgicale. Ah, c'est bien ça. Depuis quelle heure? Ok. Je vous rappelle pour confirmer. C'était l'agence de biomédecine. On a un cœur pour Mathieu Dubois, la myocardite.
Génial. Tu peux informer sa femme?
Et je mets Sophia sur le transfert.
Ok.
Tiffaine, tu passeras au vestiaire, retirer le vernis. C'est joli, mais c'est pas la croisette ici.
Bim. Frédéric Bell, qui a l'air complètement à l'ouest, qu'on entend, et pour cause, elle est accro à la morphine. Il y a deux autres infirmières. Il y a Sophia, qui est jouée par Barbara Cabrita, qui est mère de famille. Elle reprend son travail, mais elle veut être médecin, mais son mari veut pas. Et enfin, Tiffaine, qui a un problème d'ongle. Florence Coste, la petite nouvelle, elle élève seule son petit garçon et elle arrondit ses fins de mois en devenant call girl le soir. C'est la vie, ça?
C'est la vie.
Vous
c'est...
avez forcé le trait? Ou est-ce que c'est presque représentatif de certaines professions qui, avec le temps, se sont dégradées?
Alors, on a forcé le trait, évidemment, on fait de la fiction, puis l'objectif, c'est d'installer une série avec des personnages qui en ont sous le pied, comme on dit, qui ont des failles, qui ont des faiblesses, pour qu'ils puissent durer très très longtemps, qu'on puisse les suivre pendant très longtemps. Après, il faut savoir que c'est un milieu difficile. C'est un milieu, on en parle beaucoup de l'hôpital.
Bien sûr.
Et que les liens avec l'addiction, ça arrive. Que les difficultés de fin de mois, ça arrive.
Ouais.
Que les difficultés de la solitude et autres, c'est tout à fait présent. Donc on a forcé le trait. Oui, on fait une fiction de divertissement, mais il y a toujours quelque chose d'un petit peu, un petit peu réaliste.
Alors Anne, votre personnage, il n'est pas à la morphine, mais quand même vous fumez clope sur clope.
Et alcool aussi.
Ouais.
Et parce que je pense que c'est des personnages en fait qui se sont confrontés tellement à la misère et à la mort que finalement ils sont énormément dans la vie et énormément dans le plaisir en fait aussi dès qu'ils travaillent plus, parce que c'est comme un rappel permanent de dire il faut en profiter, il faut vivre en fait.
Ce que je sais, c'est que vous avez préparé le rôle en amont, en allant dans des hôpitaux, en rencontrant des infirmières. Comment c'était ?
En étant en immersion, oui. C'était essentiel et incroyable. Le premier jour, c'était électrifiant. Et puis le deuxième, c'était bouleversant. Et puis la suite, c'est choquant. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de partir en SMUR, de suivre une
SMUR,
opération.
SMUR, c'est les ambulances en urgence ?
Exactement.
Ouais.
Où on débarque chez les gens et voilà, il y a des décisions à prendre urgemment pour des personnes entre la vie et la mort. Et c'est assez impressionnant. Et des opérations en bloc opératoire ou des caps psychiatriques sous contrainte. Et c'est vrai que c'est un précipité d'un seul coup de souffrance et de décisions essentielles à prendre dans la seconde.
Quand vous étiez dans l'ambulance du SMUR, vous étiez comment ? En Anne Parillo ou alors en infirmière ? En anonyme, comment vous étiez ?
Alors en fait, j'oublie vite, c'est-à-dire qu'au départ...
Non mais comment vous étiez habillée déjà ?
En infirmière.
Donc, ils ne savaient pas du tout qu'il y avait... Voilà.
Mais même à l'hôpital, c'était d'ailleurs assez comique, en fait.
Ah oui,
parce que les personnes sur les brancards, malheureusement, qui traînaient dans les couloirs patiemment, me posaient des questions et m'interpellaient pour que je leur vienne en aide. Et en fait, j'allais à chaque fois m'en référer à quelqu'un, évidemment, du monde médical. Et donc, les gens ne comprenaient pas parce que je passais en permanence dans les couloirs. Ils me happaient comme ça. Et
oui, en disant, j'ai ma hanche qui me fait mal, donnez-moi de la morphine.
Oui, parce qu'en plus j'avais une blouse où il y avait écrit interne, donc les gens étaient sûrs que je faisais partie du staff.
Voilà, et oui, c'était votre taf, et il y avait du monde. Est-ce qu'il y avait du monde aux urgences ? Il y a quelque chose qui est notable quand même dans la série, c'est qu'il n'y a pas la queue. Dès que les gens arrivent, bim, ils sont pris en charge tout de suite. Est-ce que vous avez vu les couloirs bondés, les brancards ?
Moi, j'ai vu ce dont se plaignent les infirmières, c'est-à-dire effectivement des couloirs bondés de brancards avec des gens qui attendent parfois toute la journée pour une chambre, pour un lit, pour un soin, pour un médecin de libre, et ça existe, ça je l'ai vu, vraiment.
Vous voulez dire un mot, Thierry ?
Oui, forcément, on a triché. C'est pas évidemment.
Non, je vous le reproche pas.
Un véritable accueil des urgences. C'est comme si on avait toutes les vraies urgences des urgences, en fait.
Ouais.
Et du coup, des spécialistes derrière pour les soigner. Mais ça, c'est le rythme de la fiction qui l'impose.
Et puis parce qu'il faut aussi rester toujours dans le côté quand même cinégénique, c'est-à-dire que filmer l'attente, c'est jamais très. Vous voyez, c'est pas cinégénique en fait.
J'ai bien compris, même chez Antonioni, des fois ça m'ennuyait.
Dans Culture Média, on parle de la nouvelle série médicale de TF1 H24, une série qui relate le destin de quatre infirmières qui donnent tout pour leur profession. On continue à en parler dans un court instant avec nos invités sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
H24, c'est la nouvelle série médicale de TF1 qui démarre ce soir avec les deux premiers épisodes. Une série qui brosse le portrait de quatre infirmières, pas comme les autres. Anne Parillo, qui est notre invitée, l'une d'entre elles. Cette série est adaptée en France par la société Fédération Entertainment, dont nous recevons le directeur Thierry Sorel, Philippe.
Ou alors, peut-être, je rebondis ce que vous venez de dire, Céline, peut-être qu'elles sont justement comme les autres et qu'on voit que les infirmières également sont fragiles parce que c'est ça qui les réunit. Elles sont toutes un tout petit peu cabossées et il y a des vrais personnages de femmes. Est-ce qu'il y avait Anne Parillo, un coach médical sur le tournage pour avoir les vrais gestes ?
Absolument.
Voilà.
Et il y en a même dans le cadre des blocs opératoires, des vrais médecins qui participent en tant que figurants dans les blocs pour donner une crédibilité à la scène aussi.
Thierry Sorel, vous êtes le producteur. Est-ce que c'est réaliste ou totalement exagéré ce qu'on voit ?
C'est entre les deux.
Ouais. Non, là, quand même, il faut que je raconte.
Mais oui.
Il faut récupérer un patient qui nécessite d'avoir une transplantation cardiaque. On va en avion privé pour récupérer le cœur, comme ça se fait, d'un CHU à un autre. Et dans le vol du retour, avec la glacière dans laquelle se trouve le cœur, le pilote de l'avion privé fait un malaise. Pour le soigner, on lui perfore le poumon avec ce qu'on a. une lime à ongles et on aspire le sang avec la paille d'une boîte de jus de pomme. Pardon, mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça s'est déjà produit?
Alors, c'est spectacularisé,
ouais.
Mais en réalité, ça correspond à des actes qui seraient à peu près faits, pas avec une lime à ongles ni avec une paille,
ouais.
Mais qui seraient faits à peu près de la sorte, de la même manière.
Allez-y, pardon, je vous interromps.
Oui, tout notre travail, c'est pas d'être réaliste, c'est pas possible. On fait pas un documentaire sur un hôpital. En revanche, c'est d'être crédible.
Non, mais il y aurait pu avoir un précédent. Il y aurait pu avoir un précédent de quelqu'un un jour qui soigne un.
Ah, ça, c'est tout à fait.
Une maladie.
Ah, ça pourrait arriver.
Ça pourrait arriver. Il y a des images non édulcorées et ça m'a assez frappé. Par exemple, on voit, avant une opération, on voit la poitrine incisée au bistouri avant la transplantation. Pourquoi ce choix? C'était comme ça dans la série originale?
Ben oui, c'est le bout du bout. Quand on arrive et qu'on va mal et qu'on a une maladie qui est diagnostiquée, l'étape d'après, c'est le bloc, et le bloc, c'est l'opération.
Non mais j'ai bien compris, je ne suis pas complètement idiot. Mais normalement, la caméra ne s'attarde pas, ne montre pas ça. Pourquoi avoir choisi de le mettre à l'image? C'est ça qui m'a frappé.
Ben on voulait se concentrer jusqu'au bout des problématiques que peuvent rencontrer nos héroïnes, mais également les chirurgiens. Et on voulait aller jusqu'au bout de ce qu'on pouvait montrer. Ce n'est pas le plus simple en termes de production, mais c'est là aussi où le travail de crédibilité de la production.
C'est une adaptation, je l'ai dit, il y a beaucoup de travail au générique. Il y a 6 scénaristes français, je devrais dire françaises, parce qu'il y a 5 femmes pour un homme. Mm-hmm. C'était un choix aussi ou ça s'est fait comme ça?
Non, c'est comme ça. C'est notre directrice d'écriture, c'est Sandrine Poget,
ouais.
Qui a réuni une équipe de scénaristes. Et ils sont chacun mis en charge, ils ont pris en charge un ou deux scénarios sous son aile. Et c'est comme ça qu'on arrive à écrire assez vite.
Qu'est-ce qui vous a plu dans cette série, Anne Parillo? C'est justement que les personnages forts de femmes, pourquoi vous avez dit oui? Je précise que c'est la première fois que vous acceptez de tourner dans une série pour la télévision.
Alors déjà, moi j'avais très envie de faire une série.
Ah bon?
Oui, parce que j'avais envie de me confronter à un personnage récurrent et de pouvoir explorer comme ça sur une longueur l'intériorité d'un personnage. Et on n'a pas forcément toujours cette possibilité quand on fait un rôle au cinéma.
Ouais.
Et donc de le nourrir et de le découvrir en même temps qu'on le fabrique en fait. Mais aussi H24, ce qui m'a intéressée, c'est qu'à travers un divertissement, comme vient de le dire Thierry, on parlait aussi du cri actuel qui est quand même le problème de l'hôpital aujourd'hui. Et donc moi j'ai toujours besoin d'avoir un peu le fond et la forme dans tous les projets et que les choses ont un sens. Et là pour moi il en a vraiment un. Et si je peux... Et voilà. Et si je peux participer au cri d'une société, voilà, c'est ma
cri,
façon à moi. Je suis pas trop tête de gondole, mais voilà, travers mon.
En tête de gondole, voilà. Si vous êtes tête de gondole, Anne Parillo.
Non, mais tête de gondole dans les manifestations ou dans
compris.
Les choses comme ça,
j'ai
dans
compris.
Les marches.
Et en parlant de cri, voilà. Où en êtes-vous de votre livre? Ça fait 5 ans que vous l'écrivez dans le plus grand secret. Vous sortez pas de chez vous. Quand est-ce que lui-même ce livre va sortir?
Alors, je l'ai rendu. Pour la lecture, il y a exactement 3 jours. Donc
wow.
Ça y est, moi j'ai fini de l'écrire, en tout cas de tout ce que je pouvais faire, toute seule de mon côté.
Combien de pages, c'est qui l'éditeur?
Alors on est quand même passé de 800 à 350, donc
ouais.
C'est pour ça que ça a été long. Et l'éditeur, on est en pourparlers, donc je le garde encore pour moi.
D'accord, merci beaucoup Thierry Sorel. D'un mot, votre prochain projet Thierry?
Alors,
D'un mot, hein?
D'un mot, une mini-série pour TF1 qui s'appelle Your Honor, qui est l'adaptation d'une série israélienne. Fantastique projet de thriller.
On a fait vendredi dernier un sujet ici pour dire que les meilleures séries du monde venaient d'Israël. Vous êtes aux meilleures sources. Merci beaucoup Anne Parillo, comédienne qui se lance dans les séries télé. Merci Thierry Sorel. Je rappelle H24, la nouvelle série de TF1, c'est ce soir à 21h et il y en aura pour 3 lundis.
Et Culture Média, Philippe, ça continue.
Mais évidemment que ça continue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture avec Max Boublil, bientôt sur scène pour son nouveau spectacle. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, la nuit de la déprime, animée par Raphaël Mesrahi. Angèle Châtelier a vu ça, mais elle sera un peu moins déprimée que d'habitude. Et puis un thriller américain à ne pas rater sur Netflix. Margot Barallon l'a vu et adoré. Je vous donne pas le titre, j'arrive pas à le prononcer. À tout de suite.